Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se plonge en août 1846. Le gouvernement de François Guizot remporte une victoire vraiment écrasante aux élections législatives françaises.
Oui, 293 sièges sur 459, c'est énorme.
C'est massif, mais voilà le paradoxe. À peine 18 mois plus tard, le roi fuit pour sauver sa vie et le régime s'effondre.
Totalement.
Donc, la question centrale qu'on se pose aujourd'hui, c'est... Est-ce que ce scrutin de 1846, c'était le triomphe d'une stratégie politique rationnelle ou bien, disons, une illusion institutionnelle fatale? Pour ma part, je soutiens que cette élection fut un véritable chef-d'œuvre de stabilité et de logique méritocratique dans le cadre légal de l'époque, bien sûr.
Et de mon côté, j'avance au contraire que ce verrouillage très mécanique a complètement déconnecté le pouvoir du pays réel. Ça a créé un aveuglement qui a directement provoqué la chute de la monarchie de Juillet.
Alors, commençons par la logique interne de Guizot. Je veux dire, il ne se voyait absolument pas comme un autocrate.
Non, pas du tout.
Voilà. Pour lui, limiter le droit de vote à moins de 250 000 citoyens qui payaient un impôt direct, le fameux cens, ce n'était pas exclure pour le plaisir d'exclure. C'était une méritocratie assumée.
Une méritocratie, vraiment ?
Bah oui, selon ses critères.
Mmh.
Il considérait que ceux qui s'étaient enrichis par le travail avaient prouvé leur capacité à raisonner politiquement. La victoire de 1846, c'est le résultat d'un système délibérément conçu pour primer cette rationalité économique.
Sauf que, en fait, ce système ne récompensait pas tant la rationalité que la docilité.
Comment ça se passe ?
Bon, parlons un peu de la mécanique même de cette victoire. Ce n'est pas un pur triomphe des idées libérales. C'est le résultat d'un biais systémique profond. Le découpage électoral, par exemple, surreprésentait massivement les petits collèges ruraux.
Qui étaient beaucoup plus faciles à contrôler, on est d'accord ?
Exactement. Beaucoup plus faciles que les grands pôles urbains frondeurs. Et puis surtout, le pouvoir s'est appuyé sur l'élection massive de fonctionnaires à la Chambre.
Alors juste pour être clair sur cette mécanique, comment le gouvernement s'assurait-il précisément de la loyauté de ses fonctionnaires une fois élus ? S'agissait-il de menaces directes sur leur emploi, s'ils votaient mal au Parlement ?
En fait, c'était institutionnalisé. À l'époque, il n'y a pas de statut de la fonction publique pour protéger l'employé de l'arbitraire. Votre avancement, vos mutations...
Votre carrière entière, quoi.
Voilà, toute votre carrière dépend du ministre. Si vous êtes député et fonctionnaire en même temps, voter contre le gouvernement, c'est littéralement saborder votre propre gagne-pain. L'algorithme de 1831 était parfaitement codé pour produire une majorité automatique.
Je vois. Mais attendez, vous parlez de cette restriction comme si c'était un défaut de conception. Avec le scrutin uninominal majoritaire à trois tours, l'opposition légale, donc les Républicains, le centre-gauche, ils ont simplement perdu selon les règles du jeu.
Certes, mais la règle du jeu était...
Mais l'objectif premier d'un gouvernement n'est-il pas de s'assurer une majorité parlementaire robuste pour faire face aux crises, plutôt que de gouverner sous la pression constante de la roue ?
Et c'est précisément là que l'algorithme plante. En verrouillant totalement l'accès institutionnel, le gouvernement n'a pas fait disparaître l'opposition. Il l'a juste forcé à changer d'arène.
Ah, la fameuse campagne des banquets.
Exactement. Puisque les urnes étaient inaccessibles pour l'immense majorité de la population, la contestation s'est déplacée vers ces banquets réformistes.
Et précisons bien le mécanisme de ces banquets, parce que c'est fascinant. Les réunions politiques publiques étant strictement interdites par la loi, l'opposition a exploité une faille juridique en organisant de gigantesques repas.
C'est ça.
Techniquement, les gens ne se rassemblaient pas pour manifester. Ils dînaient et portaient des toasts politiques.
C'était un hack légal vraiment brillant pour contourner la censure.
Et c'est là que le triomphe de 1846 devient un piège mortel. Cette chambre ultra docile a agi comme un filtre.
Un filtre qui bloquait les données de la réalité.
Oui, le système est devenu incapable de traiter les signaux d'alarme.
Vous faites référence aux alertes économiques de l'automne, j'imagine. Absolument. Les récoltes de 1846 sont catastrophiques, la maladie de la pomme de terre ravage l'Europe et le prix du pain s'envole. La France ouvrière et paysanne a faim.
Et le gouvernement ne voit rien ?
Il est hypnotisé par ses 293 sièges. Il refuse le moindre élargissement du droit de vote, parce que, arithmétiquement, il pense avoir toute la France utile avec lui.
C'est le paradoxe ultime de ce scrutin. Sur le papier, les indicateurs institutionnels étaient tous au vert, l'ingénierie légale était impeccable, et le gouvernement a opéré avec une efficacité redoutable selon ses propres règles.
C'est vrai, rien dans l'hémicycle n'annonçait les barricades.
Rien du tout.
Mais la légitimité d'un État ne se résume pas à l'arithmétique d'un système fermé. La preuve irréfutable, c'est qu'au lendemain de la Révolution de 1848, la République passe immédiatement au suffrage universel masculin.
On saute de 250 000 à plus de 9 millions d'électeurs.
En un éclair, oui. Le système de Guizot n'a pas implosé à cause d'une erreur de calcul interne. Il a chuté parce qu'il ignorait l'existence même des forces extérieures qui l'ont renversé.
C'est une démonstration frappante. La perfection mécanique d'une majorité parlementaire ne garantit jamais sa pérennité face aux réalités sociales qu'elle choisit d'ignorer.
Tout à fait, ça remet les choses en perspective.
Voilà qui laisse largement matière à réflexion sur la conception même de nos institutions. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion et à la prochaine fois pour un nouveau débat.